France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Le double attentat en Tunisie a été revendiqué hier soir par le groupe État islamique. Les deux attaques suicides qui ont touché Tunis ont fait un mort et 8 blessés. Les terroristes visaient des policiers. Ce sont les premiers attentats dans la capitale depuis octobre dernier. Notons qu'hier aussi en Tunisie, le président Bejikaïp Ersebi a été hospitalisé, victime d'un grave malaise. Âgé de 92 ans, il est dans un état critique. Le G20 débute au Japon ce vendredi à Osaka. Un sommet qui s'annonce explosif en plein contexte géopolitique agité entre le conflit commercial entre Washington et Pékin, le dossier nucléaire nord-coréen, les tensions toujours autour de l'Iran, autour du climat également. Les discussions entre les dirigeants des 20 plus grandes puissances du monde vont durer jusqu'à demain inclus. La politique aux États-Unis cette fois, les candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle 2020 s'affrontaient cette nuit pour un deuxième débat. Cette fois, les deux favoris étaient présents, à savoir l'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, ainsi que le très populaire sénateur socialiste Bernie Sanders. Ils sont en tête tous les deux des sondages pour affronter Donald Trump l'année prochaine. Au lendemain de l'annonce d'un coup d'État déjoué au Venezuela, le pouvoir précise avoir arrêté 13 personnes, dont un général. Ils sont soupçonnés d'avoir comploté pour assassiner le président Nicolas Maduro avec l'opposition au Venezuela ainsi que des puissances étrangères, les États-Unis, la Colombie et le Chili. Ces accusations sont rejetées par l'opposant Juan Guaido. Deux personnes, dont l'imam de Brest, ont été blessées hier par balle devant l'une des mosquées de la ville. Le tireur a été retrouvé mort quelques heures plus tard. Il se serait vraisemblablement suicidé après avoir justifié son geste par écrit. C'est ce qu'affirment les enquêteurs. Enfin, soulignons que 4 départements sont en alerte rouge canicule ce matin. L'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. 76 autres sont en alerte orange. Les températures atteindront aujourd'hui par endroit 42 à 45 degrés.
France Culture présente l'exposition événement Paris romantique au Petit Palais et au Musée de la Vie romantique. Cet été, plongez dans le tourbillon culturel parisien de 1815 à 1848. Peintures, sculptures, costumes, objets d'art, l'exposition vous invite à une promenade dans les quartiers emblématiques de la capitale, comme le Palais Royal, Notre-Dame de Paris ou les grands boulevards. L'été sera romantique. Paris romantique, 1815-1848, jusqu'au 15 septembre, à Paris, au Petit Palais et au Musée de la Vie romantique. Un partenariat France Culture et France 3.
Vous aimez la bande dessinée? Ça tombe bien, nous retrouvons Toufi Kakem en ce vendredi matin, il est 6h03.
Le réveil culturel. Toufi Kakem.
Et c'est la dernière émission de la saison. Bonjour Nina Antico, c'est un plaisir de partager avec vous cette émission avant de prendre des vacances.
Mm-hmm. Bonjour.
Bonjour, vous n'allez pas avoir de vacances, on en parlera dans un instant. Maléfique, le recueil de strips de Nina Antico vient de sortir en librairie, édité par l'association. Celles et ceux qui ont suivi l'affaire quand les strips étaient publiés par l'application La Matinale du Monde savent que les Maléfiques sont une bande de jeunes femmes d'aujourd'hui, 2-3 copines décomplexées, desperate housewife d'aujourd'hui, et qui parlent de sextoy et de drogue, de grossesse et de la vie après la grossesse. Des histoires de filles, une bande dessinée de tchatch, mais l'humour n'empêche pas d'être sérieux.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Car tout cela est bien sérieux, Nina Antico.
Ah oui, vous trouvez? Sous des couches d'artificialité, oui.
D'humour, ouais. Des fois potache. L'idée, c'est de quoi? C'est de raconter aussi la sexualité des femmes d'aujourd'hui, le rapport qu'ont les femmes à leur sexualité aujourd'hui.
Oui.
C'est assez central hein, dans ces histoires.
Oui, tout à fait. À travers le prisme, moi je prétends pas parler de l'universalité, mais de gens proches de moi. Et donc, voilà, moi je me pose la question de mon univers et je présume que si c'est le mien, ça doit concerner aussi d'autres gens, mais je fais pas de ces jeunes filles forcément une généralité.
Une unité de lieu, bah c'est un salon, hein, donc
oui, un huis clos.
Un huis clos, 2-3 copines. on commence maintenant à s'attacher, même si au début, elles ont tout pour qu'elles ne soient pas les meilleures copines du monde, quoi. On se méfie, elles sont plutôt mauvaise langue, très souvent de mauvaise humeur, pas très sociables. Elles peuvent tout faire chez elles.
Mais non, mais c'est qu'elles s'envoient... Elles sont pas spécialement mauvaises, mais elles sont libres et dans leurs paroles. Donc, elles se racontent tout. Et il y a les pics qui vont avec les conversations que j'aime bien récupérer, quoi, en fait. Mais qui font partie... C'est la tchatch. Oui, par contre, c'est le genre de conversation que j'ai effectivement avec mes copines. Alors après, il y a la vérité, il y a du fantasme.
Pourquoi elles n'ont pas de nom, vos trois héroïnes?
Pour pas les cristalliser. Et puis, puisqu'elles sont tout le temps ensemble, quand on est tout le temps avec quelqu'un, on ne s'appelle pas, en fait. Comme quand on est en couple, on prononce rarement le prénom de la personne en face, quoi. Et je pense que c'était pour garder ce truc de... C'est inclus, et c'est l'idée de base, c'est qu'elles sont ensemble comme dans un terrier, quoi.
Et pourtant, elles sont entre femmes, elles ne parlent que de sujets qui ne concernent les filles, les hommes n'apparaissent jamais, ou quand ils apparaissent, ils apparaissent en tant que comme objet.
Ouais. Oui, ça faisait partie de l'humour, là, pour le coup. C'était effectivement que depuis leur petite antenne, depuis leur phare, enfin leur base, elles parlent de tous les sujets, mais que ce lieu soit réservé uniquement au genre féminin.
C'est une commande, Nine Antico.
La commande, c'était un strip hebdomadaire, et après
autour des femmes, autour de
le
des
journaliste
femmes d'aujourd'hui.
Frédéric Potier qui m'a proposé ça, il m'a dit voilà, ça c'est, tu fais ça bien de parler des femmes entre elles. Moi, ça m'intéresse. On n'a pas ce truc là sur la matinale. J'ai été regarder ce qui se passait très proche de moi pour pouvoir raconter ça de façon rythmée hebdomadaire. Et autour de moi, qu'est-ce que j'étais en train de vivre? Je venais d'accoucher. Il y avait mes amis qui avaient des préoccupations qu'on peut retrouver dans le et moi-même donc dans la bande dessinée. Et la première idée que j'ai eue et ce que j'ai demandé aux journalistes, c'est est-ce que ça te va si enfin j'aurais pas de censure. Moi, ça commence par exemple le strip. Elles vont arroser les plantes avec le sang de leurs règles. Je veux pouvoir être libre de faire ça. Ça pose pas de problème. Il m'a dit ok, non, tu fais ce que tu veux. Et donc ça, c'était ma première idée. C'est vrai, le rapport au sang, ouais, à la Moon Cup, oui. Et le fait de recycler son sang, d'en faire quelque chose, d'en faire un engrais, ce qui est une réalité.
Vous venez de prononcer ce mot, Moon Cup, Nine Antico, dans Maléfique. Ouais. C'est aussi un inventaire des nouveaux mots. Par exemple, une Moon Cup, ça veut dire quoi?
Eh bien, c'est une, au lieu d'un tampon ou d'une serviette hygiénique, c'est une espèce de petit réceptacle, un petit vase en silicone qui remplace le tampon et met donc qu'on met toute seule et qu'on retire quand elle est pleine. Et en fait, ça donne une conscience de son flux, de son sang. Et pour moi, c'était quelque chose de fort de commencer avec ça parce que déjà, c'est une réappropriation des choses sales, la manière dont on nous a toujours fait regarder notre sang, qui était quelque chose qu'on doit cacher, qu'on ne voit pas, qui sent mauvais, etc. Et ça, c'est une forme, ça va avec plein d'autres choses qui se passent en ce moment, enfin depuis quelques temps dans la société, qui fait qu'on essaye de libérer les femmes, de se libérer de carcans, que ce soit les poils, la sexualité, le plaisir féminin mis en avant, les différentes manières d'accoucher, plein de choses.
Et pour reprendre...
Les textes féministes, les textes sur les sorcières, etc.
Pour reprendre le running gag de Maléfique, donc Nine Antico, que c'est édité chez Association, maintenant que ces strips sont réunis dans un petit livre format carré, le running gag de ses copines, c'est de voir des films porno.
Ouais, c'est la chute qui vient
très souvent,
assez fréquemment.
D'ailleurs, on ne sait pas si c'est au premier ou au deuxième degré.
Eh ben, pour moi, non, c'est au premier degré dans le livre, comme le livre est très très premier degré. C'est aussi voilà de vulgariser le porno. C'est pas que pour les hommes. Les femmes peuvent avoir aussi un besoin, une consommation de films porno. En fait, l'idée c'est de désenclaver plein de choses, quoi. C'est vraiment de parler de trucs qui sont un peu tabous, quoi, le rapport des
dresser...
femmes avec la sexualité, avec le
Et porno. De dresser aussi l'inventaire, parce que quand je disais on a droit à tous les sex toys possibles, inimaginables, qui
J'ai
viennent sortir.
J'ai beaucoup appris sur les sex toys en faisant des recherches sur... sur internet pour parce que je cherchais à dessiner des formes et tout ça, et c'est, il y a des choses qui sont dans le livre sur lesquelles je me suis documentée sur le moment aussi, mais c'est rigolo. Mais c'est
avec vrai à que... chaque fois une identicole envie de faire sauter un tabou, c'est-à-dire la sexualité des femmes sans les hommes d'ailleurs.
Bah oui, mais parce que c'est des sujets importants dans nos vies, quoi, en fait. La sexualité, ça prend quand même une bonne place, et donc l'autonomie dans la sexualité est aussi intéressante que le plaisir partagé.
Et pourquoi elles sont maléfiques? Pourquoi les appeler les maléfiques, l'identico, vos personnages, ces femmes qui ont votre âge, c'est-à-dire l'âge d'avoir la trentaine?
Maléfique, c'est pour la connotation qui va avec les sorcières et le fait de montrer que c'est les sorcières de maintenant, c'est pas les sorcières sur des balais ou avec un chaudron, c'est juste des femmes qui ont pas peur de déplaire et qui font plus qu'on leur demande de faire. Et
vous-même, vous considérez comme une sorcière du coup, Nini Lantico?
Ouais, oui. Hey, this life is never fair. The angels that you need are never there. But sometimes it comes to me in the dead of winter, dead of night. He's all that I can see. Hold on to me.
On écoute Courtney Love. Comme les maléfiques, les personnages de Nin Antico, c'est ces trentenaires qui traversent tout, la crise existentielle quand on est enceinte pour la première fois, et puis aussi des confidences. À un certain moment, un personnage les appelle les Me Too, c'est assez drôle.
Les Me Too, M-I-T-O-U, je ouais. précise. Ouais. Bah, oui, ça arrivait... Me Too. Moi, j'ai commencé le strip en septembre, et fin septembre, et Me Too est arrivé en novembre comme une espèce de cerise sur le gâteau pour ce strip maléfique. Mais j'en parle de manière détournée. En fait, c'est par rapport à... Par exemple, il y a un strip, enfin, il y a une rolling joke qui revient souvent sur le fait de regarder ou pas les films de Woody Allen et des gens qui sont tombés pendant ce mouvement-là. Ce que je trouve intéressant, c'est là où ça pose des paradoxes, des questions et des limites. Parce que, par exemple, moi, je me suis demandé est-ce que j'allais arrêter de regarder des films des réalisateurs qui ont pu être incriminés. Et ça me pose des questions, mais non, en fait, je ne vais pas arrêter de regarder Woody Allen. En fait, forcément, ça fait se poser des questions sur jusqu'où le jugement public, les...
Maléfique, donc ce sont des strips. Les strips, c'est quoi? C'est une histoire en six cases. C'est la première fois que vous acceptez de ce genre d'exercice, c'est-à-dire raconter une histoire en une seule page avec des personnages récurrents.
Ouais, l'idée c'est d'être rapide, enfin qu'il y ait une évolution, c'est sur six cases, faut clairement qu'il y ait un début et une chute bien bien fracassante. Et après, moi, dans mes bandes dessinées chez Glénat, je faisais déjà des histoires en une page. J'aime bien ce jeu d'aller vite, de partir d'un point A, aller à un point B. Et puis, ça met en... moi, le dialogue, c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup faire, en fait.
Mieux que les dessins, vous voulez dire?
Je dirais pas que je suis une dessinatrice très habile, donc j'arrive à rendre ce que je veux, mais je pense que je suis plus Dexter au niveau du langage. Je m'amuse plus en cuisine avec les dialogues. Je pourrais pas tout faire en dessin.
Nina Antico, vous avez commencé par l'autobiographie, hein. Oui. C'était votre premier album en 2008, Le goût du paradis, où vous racontiez un peu votre jeunesse. Votre jeunesse de jeune fille de banlieue attirée par les mauvais garçons, on peut le dire comme ça.
Ouais. Et puis, il y avait d'autres sujets aussi.
Mais c'est ça qui a cristallisé notre intérêt pour votre travail. Et après, il y a eu Coney Island Baby. Là, Coney Island Baby, c'était plutôt Betty Page et Linda Lovelace qui vous ont intéressé.
Ouais. C'était le parcours de femmes qu'on choisit de vivre, de faire de leur corps et de leur sexualité un métier, et qui ont mal fini, un peu comme dans les contes, c'est-à-dire qu'elles sont devenues un peu folles chacune à leur façon. Betty Page était clairement devenue schizophrène, elle avait fait une tentative d'homicide qui a raté, mais elles se sont aussi converties à la religion toutes les deux, et elles ont surtout renié complètement leur passé. Et voilà, moi j'avais choisi l'angle de prendre Hugh Hefner comme un narrateur à la Dickens, comme dans le conte de Noël, qui ferait voyager deux filles contemporaines qui voudraient se lancer aussi dans le métier de pin-up, en gros.
Mais ces deux femmes, elles vous ont intéressé, elles vous ont intrigué?
Oui, je me suis glissée en fait dans leur... en elles, parce que elles interrogeaient en moi le rapport justement à la séduction des femmes, le besoin, qu'est-ce qu'on fait de son corps, comment on l'utilise, et comment nos choix dans la vie peuvent être
conditionnés par ça.
Et le jugement de la société qui est extrêmement dur et machiavélique en fait avec les femmes. C'est si elles ont fini si durement, c'est parce que c'est évidemment à cause du regard des hommes.
Alors, vous préparez un film cet été, Nina Antico. Je disais qu'il n'y aura pas de vacances pour vous, votre premier long métrage.
Ouais, tout à fait. Il s'appelle Playlist.
Playlist.
Ouais, il sera avec Sarah Forestier. Je suis très contente qu'il jouera l'héroïne qui s'appelle Sophie. Et ça prendra aussi des morceaux de période de ma vie, plutôt vers 25 ans. Avant de faire mon métier, de vivre de ce que je fais actuellement, quand j'étais serveuse et avec des petits jobs et que j'avais très envie de faire du dessin, même si c'était pas encore très mature. Par exemple, je pensais pas encore que j'allais raconter des histoires, je voulais faire de l'illustration, et j'allais voir les magazines, les Inrock, Nova, je leur montrais mes dessins que je faisais en soirée, et je voulais qu'on me dise oui, tu vas y arriver, oui, c'est bien. Et en fait, on me disait bon, c'est pas mal, accroche-toi ma petite, tu vas y arriver, là c'est pas encore ça, mais on voit que t'as envie, donc accroche-toi. Et dès qu'il se passait un mini truc, je me disais ah, c'est bon, là, la porte va s'ouvrir, ça va démarrer. Puis non, ça démarre pas. Et à côté de ça, j'avais des punaises de lit. À côté de ça, j'avais des mêlées autres. Enfin bref, les garçons toujours qui étaient en orbite. Enfin, où j'étais en orbite plutôt autour des garçons. Et voilà, donc c'est une comédie enragée.
Ah, avec une veine autobiographique, du coup.
Oui, une veine autobiographique, mais comme tout un livre ou un film, même s'il est autobiographique, c'est forcément refantasmé, refictionalisé, parce que c'est pas un élément de vérité tel quel.
Est-ce que la littérature ou la bande dessinée vous ont influencé avant de vous lancer à votre tour dans la réalisation d'histoires dessinées, de romans graphiques, et en attendant le film?
Eh bien, la bande dessinée, je l'ai découvert sur le tard, quand j'étais pas spécialement bédéphile, en fait, j'avais pas dévoré des bandes dessinées. Par contre, je lisais la littérature. Après, l'influence directe des romans que j'ai pu lire sur mon travail, je la maîtrise pas. Mais les premières claques en bande dessinée, pour moi, ça a été Daniel Clowes, Robert Crumb, Blutch, Ludovic de Burme. Et ça, j'ai découvert tout ça d'un coup. Et j'aime que le dessin soit glamour. Et je trouve que.
Et avant, votre culture, c'était plutôt de la musique, de la littérature, du cinéma, du rock.
Littérature et cinéma. Mais cinéma, oui, je pense que j'ai, vers 16-17 ans, je suis vraiment tombée amoureuse du cinéma en découvrant des vieux films et en étant sciée par la modernité de films que je pouvais regarder qui dataient des années 50. Et je me disais, waouh, putain, il se passe vraiment là un truc à l'image en regardant.
Quel genre de film?
Eh ben, il y a 15 ans, ça a été vraiment ma première claque. Marlon Brando. Voilà, c'était de voir Marlon Brando à l'écran, plus les textes de Tennessee Williams qui étaient très moites et toujours très sensuels autour de la sexualité. En fait, je me suis pris vraiment une décharge de modernité à travers ces films du passé avec des acteurs qui étaient pour la plupart décédés. Et ça a ouvert la porte à plein d'autres films. Je pense que l'envie de raconter des histoires, voilà, elle vient quand même plus du cinéma.
Et vous voilà maintenant parti pour tourner un long métrage, Playlist, donc c'est ça?
Ouais.
Est-ce à dire que la bande dessinée, c'est fini?
Non, pas du tout. Non, non. Non, mais ce qui est génial, mais très banal à dire, c'est que la bande dessinée, c'est extrêmement solitaire comme travail. Et que là, l'idée de partager, et c'est ce qui se passe, là, je suis en prépa, et de travailler avec tous ces corps de métier, et d'avoir plein de gens investis, de créer ça avec les comédiens, c'est tout à fait autre chose et c'est galvanisant. Après, je pense que je serais très contente de retourner à la solitude de ma table et à pouvoir... Par exemple, la différence avec le cinéma, c'est que quand je fais une bande dessinée, je n'ai pas à la raconter. Et moi, j'ai du mal d'ailleurs à en parler tant que je l'ai pas fini. Alors qu'au cinéma, on doit constamment parler et donner envie et être clair. Et ça, c'est quelque chose dont on peut complètement s'abstenir en faisant une bande dessinée. On peut faire sa petite cuisine interne et finalement faire lire à la fin. C'est la grosse différence.
Maléfique, c'est édité par l'association. Merci Nilantico d'avoir fait la dernière de cette saison. Il y a quelque chose qui me dit que peut-être qu'on fera même la rentrée ensemble. Et je ne partirai pas en vacances sans vous recommander, en plus du Maléfique de Nilantico, de jeter un œil, voire plus, d'acheter cette nouvelle revue luxueuse, un MOOC, ça s'appelle un trimestriel, qui a pour titre « Tintin, c'est l'aventure ». Et une revue à emporter avec vous cet été, enfin quand je dis revue, c'est même pas une revue luxueuse, on dit MOOC maintenant, Tintin c'est l'aventure. Le numéro 1 est en librairie, c'est un trimestriel, Tintin c'est l'aventure, ce n'est pas seulement une revue de bande dessinée, même, je dirais même c'est très peu une revue de bande dessinée. Laura Stiwi et Caroline Rondeau qui sont à l'origine de ce beau projet édité avec Géo sans mes invités. L'idée, c'était de partir de l'univers du 20e siècle, du petit 20e de Tintin pour raconter le 21e siècle, avec toujours des références à Tintin, puisque cette belle revue, ce MOOC, est édité en collaboration avec Moulinsart.
Tout à fait. Tintin, effectivement, c'est l'aventure. Je vais peut-être expliquer ce que c'est qu'un MOOC. Un MOOC, c'est à la frontière entre le magazine et le book. Donc en fait, c'est comme un ouvrage, un livre, c'est-à-dire que ça se conserve et ça a la régularité de la presse, du magazine. Donc là, c'est un trimestriel, on va le retrouver tous les 3 mois. Et donc, il faut un objet et une thématique qui perdure. En fait, Tintin a incarné le 20e siècle et on voulait l'inscrire dans le 21e siècle. Et nous nous sommes dit avec les éditions Moulinsart, nous sommes en partenariat avec eux, que l'aventure, la curiosité, le voyage, le grand reportage, c'était un point d'entrée pour parler de l'aventure contemporaine du 21e siècle et aborder des sujets comme la conquête spatiale, qui est aussi la thématique du dossier.
Parce qu'il y a aussi la science, il y a aussi la philosophie.
Absolument. Vous parliez de philosophie d'ailleurs pour le numéro 2, ce n'est pas le sujet, mais je vous le dis quand même, nous avons eu l'honneur d'avoir Michel Serres en entretien pour le numéro 2. Effectivement,
avant son décès, ce cher Michel Serres.
Exactement, et justement, il y a beaucoup de moyens d'expression dans cette revue. On a souhaité faire collaborer à la fois des scientifiques, des philosophes, des écrivains, des auteurs de BD.
Là, par exemple, il y a une bande dessinée d'un auteur, Isler, qui revient avec les avancées d'aujourd'hui sur la conquête spatiale. Et c'est bien sûr un hommage aux deux albums de Tintin, Objectif Lune et On a marché sur la Lune.
Absolument. Comme on a ce dossier dont la thématique est la conquête spatiale. On connecte cette dépli BD, donc c'est une BD qui s'ouvre, c'est deux volets recto verso avec cinq faces à chaque fois. On confie à un auteur BD, là, donc c'est Bernard Isler, une BD, il doit s'écarter de la ligne claire, il ne doit pas utiliser des personnages d'Hergé, mais il doit créer narration.
Et ça c'est votre choix, Laura Stevie, avec le choix de Caroline Rondeau, ça a été imposé par Moulinsart?
Alors en fait c'est ensemble. Moulinsart ne nous a rien imposé, puisque c'est quelque chose qu'on fait.
C'est vraiment de la discussion en fait avec eux. Évidemment, ils ont un carnet d'adresses bande dessinée que nous on n'a pas du tout, et aussi une expertise qui est pas la nôtre, parce que nous c'est plus le reportage et le beau livre. Donc c'est vraiment de la discussion et c'est une décision collégiale. Oui. Cet auteur, donc c'est Bernard Isler sur ce premier numéro qui lui nous a un peu aidé à définir ce format de des plis BD dont parlait Laura à l'instant, qui est assez innovant, qui est un peu vécu comme un défi par les auteurs qu'on sollicite en général. Ça les amuse plutôt de se dire, voilà, moi je fais des romans graphiques de 312 pages, comment en 10 volets je raconte une histoire? C'est voilà, un vrai défi créatif. Et on aura donc Olivier Grenson sur le numéro 2, donc dans un registre complètement différent. Et ce qu'on entend aussi faire avec ce dépli BD, c'est montrer que finalement, en faisant vivre ces BD avec des auteurs contemporains, c'est montrer combien l'œuvre d'Hergé parle encore aujourd'hui au monde et combien elle a une résonance contemporaine.
Tintin, c'est l'aventure, le MOOC, c'est édité avec Moulinsart, ça on vient de le dire, ouais. Mais c'est aussi édité par Géo, donc on retrouve, j'allais dire, l'ADN de Géo, c'est-à-dire le grand reportage, les belles photos.
Exactement. Effectivement, on a beaucoup de rubriques.
Donc oui. On entre par la photo. L'ouverture de la revue, c'est ça. C'est un panorama photo dans la grande tradition Géo, évidemment. On entre par l'image et c'est ça le fil conducteur tout au long du numéro.
Oui. Sur ce panorama, on a une case de Tintin qui nous mène à une aventure contemporaine. Par exemple, vous allez avoir l'île mystérieuse qui va être découverte ad hoc à 10 terres en vue. Et ça va être l'occasion de parler de l'île Andaman, en Inde, où il y a une tribu de chasseurs-cueilleurs, des sentinelles. Et c'est une tribu qui est considérée comme la société la plus vulnérable de la planète. Ils sont complètement isolés, donc le moindre contact avec un autre être humain peut être extrêmement dangereux. Une grippe peut tout à fait anéantir toute la population.
Et c'est passionnant, tout aussi passionnant d'ailleurs ce reportage sur les Bédouins à l'ombre des grandes tours qui poussent à Dubaï et à Abu Dhabi. Et là, bien sûr, on part à partir de l'aventure de Tintin qui est le crabe aux pinces d'or.
Absolument.
On s'aperçoit, là c'est un des points d'entrée possible, mais on s'aperçoit qu'ils sont absolument multiples dans l'œuvre d'Hergé et que c'est parfois prétexte pour parler du Moyen-Orient, c'est prétexte pour parler de l'Écosse et du tourisme du surnaturel et des gens qui se ruent pour être hébergés dans l'auberge la plus hantée de Grande-Bretagne. Alors il y en a beaucoup qui revendiquent ce titre, mais c'est le point d'entrée aussi pour parler de tout un tas d'autres sujets. Voilà, c'est tout ça.
Du grand reportage, des belles photos. Et puis, il faut le dire, pour les tintinophiles, il y a quand même quelques dessins, quelques croquis inédits d'Hergé. Et ça, vous les avez sortis de la caverne d'Ali Baba, des éditions Moulinsart. Merci beaucoup d'être passé nous parler de Tintin, c'est l'aventure, le numéro 1 de ce MOOC, de cette revue de luxe, de ce trimestriel, est déjà en vente un peu partout dans les librairies et dans les kiosques. Merci Laura Stiwi, merci Caroline Rondeau d'être passée ce matin à nous en parler. Et c'est ainsi que s'achève ce réveil culturel et même cette deuxième saison du Réveil culturel. Merci à Corinne Amar qui m'a aidé depuis le début de cette année à préparer jour après jour cette émission que vous pouvez retrouver sur franceculture.fr, et merci au réalisateur Vincent Abouchard. Ce matin à la technique, Bruno Mourland. Bel été à vous, nous on se retrouve pour une troisième saison du Réveil culturel à partir du lundi 26 août, mais surtout restez branchés sur France Culture, les programmes d'été réservent de très très bonnes surprises. Bel été à vous.
Vous êtes sur France Culture, Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Parlons culture, autrement, l'anachronique culturelle. Mathilde Serrel.
Et si nous faisions un voyage dans le temps ? Posons notre vaisseau spatial à l'inauguration de la fresque du Jugement dernier, devant le chantier des colonnes de Buren, ou à la première du Sacre du Printemps. L'anachronique culturelle vous propose de revivre ces grands événements de la culture comme si c'était hier, pour comprendre ce qu'ils disent de l'époque, mais aussi de notre présent.
L'anachronique culturelle, Mathilde Serrel, chaque vendredi, en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr.
Fermez les yeux, ouvrez grand vos oreilles.
Follow me.
Pour la première fois au cinéma, l'écran s'éteint. France Culture et MK2 vous invitent à l'expérience unique du ciné sonore. Un film sans images, en son immersif. Jeudi 4 juillet à 20h au MK2 Bibliothèque de Paris, découvrez Le Brasier Chelet avec Gaspard Ulliel, Marianne Faithfull et Warren Ellis.
Je vis, l'homme blême s'adonnant aux arts illicites.
Informations et billetterie sur franceculture.fr et mk2.com.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La France risque de battre son record de chaleur. La vigilance canicule est rouge dans le Midi ce vendredi. Vous entendrez dans ce journal l'inquiétude des céréaliers. Inquiétude également en Allemagne pour la chancelière Angela Merkel au lendemain d'une nouvelle crise de tremblement en public. Aujourd'hui, elle est au Japon à Osaka pour le G20 qui vient de s'ouvrir. Et puis, 10 candidats à l'investiture démocrate aux États-Unis se sont affrontés cette nuit lors d'un débat télévisé. Les favoris Joe Biden et Bernie Sanders ont pris une cible commune, le président Donald Trump. 45 degrés, c'est la température maximale prévue par Météo France aujourd'hui, au plus chaud de la journée. Nous ferons un point météo en fin de journal. Mais avant, penchons-nous pour le moment sur les conséquences de cette canicule sur l'agriculture française. Elles commencent à se faire sentir. Le ministre de l'Agriculture a décrété hier plusieurs petites mesures, notamment l'interdiction cette semaine du transport d'animaux. Mais il est plus difficile de protéger certaines cultures et notamment les céréales, Anne Lorchouin.
C'est la pleine période de remplissage du blé, le moment où les grains se forment et grossissent. Ce stress thermique que ne peut pas compenser l'irrigation pourrait amoindrir les récoltes. François Laurent est directeur du recherche et du développement à l'Institut du Végétal Arvalis.
Dans cette phase de remplissage, effectivement, il y a des effets négatifs, des excès de température qui peuvent diminuer, on va dire, la taille des grains, la quantité d'amidon qui migre dans ces grains et qui fait infiner le rendement.
Le secteur agricole avait été l'un des plus touchés par la canicule de 2003. Et si les agriculteurs ont l'habitude de gérer ce type d'événements climatiques, leur répétition, leur longueur et surtout le fait qu'ils arrivent de plus en plus tôt dans l'année met en péril les productions. S'adapter, c'est donc toute la question. Pour cela, plusieurs moyens, selon François Laurent.
Faire un effort au niveau de la sélection, obtenir des variétés futures qui soient plus tolérante à la fois au stress thermique comme ceux qu'on vit actuellement, mais aussi au stress hydrique. Et donc il y a tout un tas de travaux effectivement, notamment de recherche, visant à identifier le type de patrimoine génétique de certaines variétés qui les rendraient plus à même de résister à ce genre d'épisode.
Par ailleurs, le secteur agricole est l'un des rares qui ne soit pas obligé de s'assurer. Or, sans assurance, certaines exploitations les plus fragiles risquent tout simplement la disparition. Le ministre de l'Agriculture souhaite donc une concertation sur le sujet.
Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, adresse sa solidarité à la communauté musulmane de France. Hier, un homme a tiré devant une mosquée à Brest, blessant 2 personnes, dont l'imam. Il a pris la fuite. Son corps a été retrouvé ensuite quelques heures plus tard. Il se serait suicidé. Le groupe État islamique revendique les 2 attentats à Tunis qui ont eu lieu hier. Son agence de propagande Hamak s'en est fait écho en fin de journée. Les 2 attaques ont fait 1 mort et 8 blessés. Et pendant ce temps, en Tunisie, toujours, le président Bedjikaïd Essebi est hospitalisé. Âgé de 92 ans, il se trouve dans un état critique selon l'un de ses conseillers après un malaise. Le sommet du G20 s'est officiellement ouvert ce matin à Osaka au Japon. Une réunion à grands enjeux sur fond de fracture entre les dirigeants du monde, sur le commerce et sur le climat notamment. Après la traditionnelle photo de famille, les 20 chefs d'État et de gouvernement ont entamé les débats sous la houlette du premier ministre du pays hôte, Shinzo Abe. Sera très attendue notamment la rencontre à venir entre l'Américain Donald Trump et le Chinois Xi Jinping. Et c'est justement avant de rejoindre Osaka que la chancelière allemande a encore été sujette en public à des tremblements. Voilà qui inquiète un peu plus sur sa santé. Cela s'est passé hier, 9 jours après un précédent épisode, Ludovic Piétonnier.
Tout son corps se met à trembler, ses jambes, ses bras, son visage. Elle a beau à chaque fois tenter de se tenir les mains comme pour essayer de contenir ses tremblements, ils sont irrépressibles. La fois précédente, il était question de déshydratation. Selon son service de presse, elle avait dû boire de son propre aveu au moins 3 verres d'eau pour aller mieux. Hier, lors de ce nouvel épisode de tremblement qui dure 2 minutes, chose surprenante, elle refuse le verre d'eau qu'on lui tend. Mais l'élément de nature à inquiéter, c'est qu'autant la dernière fois elle se tenait en plein soleil, il faisait au moins 30 degrés, hier c'était en intérieur et au frais. Et pas de canicule à l'extérieur, juste une température estivale. Son porte-parole a évacué le sujet, il s'est voulu rassurant. La chancelière se porte bien, tout se passe comme prévu. Allusion à la longue séquence diplomatique qu'elle vient d'entamer, G20 au Japon, plus sommet extraordinaire européen dimanche soir. L'Allemagne est désormais vraiment inquiète, ce qui n'était pas le cas après le premier épisode. Des spasmes que même certains médias avaient alors délibérément choisi de ne pas évoquer. Mais maintenant, la question est partout. Que se passe-t-il vraiment? Et peut-elle tenir 2 ans jusqu'à la fin de son mandat.
Le premier débat avait réuni la nuit dernière plus de 15 millions de téléspectateurs. Ils seront plus probablement après cette nuit pour le deuxième débat qui a réuni les 2 favoris. Il s'agit du débat de la campagne à l'investiture démocrate pour la présidentielle 2020. Le très populaire sénateur socialiste Bernie Sanders affrontait notamment Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama. Au total, cette nuit, ils étaient 10 et ils ont été très offensifs à l'égard du président américain Donald Trump. Écoutez par exemple le vice-président, l'ancien vice-président Joe Biden, qui a dit ceci à propos du président.
Donald Trump nous a placés dans une situation horrible. Dans ce pays, les inégalités ont terriblement augmenté. Je vais diriger ce pays car je pense qu'il faut assurer le salut de cette nation. Le président nous a divisés. Il a mis sur le même pied d'égalité les racistes, les suprémacistes blancs avec les gens normaux et décents. Il a noué des liens avec des dictateurs. Il s'est fâché avec nos alliés. Je me présente aussi car je pense qu'il faut mieux traiter ce qui est la colonne vertébrale de l'Amérique. La classe moyenne, la classe des travailleurs, il faut leur rendre leur dignité. Enfin, il faut unir à nouveau ce pays. On peut accomplir beaucoup de choses si nous sommes ensemble.
Des propos traduits grâce à notre correspondant outre-Atlantique, Grégory Phillips. Jean-Luc Mélenchon sera jugé en correctionnel après des accrochages qui avaient émaillé les perquisitions visant son domicile et le siège du mouvement La France Insoumise en octobre dernier. L'homme politique fait partie des personnalités convoquées pour actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire, rébellion et provocation. À ses côtés également les députés Alexis Corbière et Bastien Lachaud. Il aura duré 11 jours. Le premier service national universel s'achève aujourd'hui pour les premiers volontaires dans le Val-d'Oise à Pontoise notamment. Des adolescents ont enchaîné les activités sportives, les cours d'autodéfense, d'éducation civique, éducation sexuelle et les travaux collectifs avec des associations. C'est maintenant l'heure du bilan de ce stage presque militaire. Bilan avec Simon Cardona.
Le ventilateur tourne à plein régime. En face, 15 adolescents en basket, cyclistes noirs et t-shirt floqués au logo du SNU, supervisé par un responsable de la Croix-Rouge.
Combien de signes de vie à contrôler sur la personne ?
Hugo doit mettre son camarade en position PLS. Il a fait le trajet depuis l'heure pour trouver dans le SNU de la discipline.
Parce que, ok, certes, il y a l'âge un peu bébête où effectivement on a tendance à vouloir faire des bêtises, on est insta avec les copains. Le SNU, c'est quelque chose où justement ça fait passer cet âge bête.
Pour cet aspirant gendarme de 16 ans, le SNU peut être utile à tous les adolescents.
Moi, je dirais, faudrait les imposer leur service. Ça leur apprendrait déjà ce que c'est à la base du respect, la base de la discipline et même la base d'écouter les autres.
De l'autre côté de la pièce, Pearl de Guyane s'entraîne avec Aïcha du Morbihan. Les deux filles ont aimé le brassage social et les cours d'éducation civique du SNU, mais regrettent son côté trop militaire.
On a toujours marché au pas, toujours uniforme, on a été pareil, lever des drapeaux et tout.
C'est d'ailleurs la limite du SNU d'après d'après ces adolescentes, on ne pourra forcer personne d'y aller.
Il y avait des moments donnés où elles étaient en pleurs, elles voulaient toutes rentrer chez elles, elles en avaient marre.
Sachant que nous, on est volontaires, on a craqué, alors ceux qui ne le sont pas, comment ça va être en fait?
C'est le grand défi du SNU ces prochaines années, admet le chef du centre de Pontoise, Frédéric Hervé.
Bien sûr qu'il y en a qui n'ont pas envie de venir. Tout notre but, notre dessein, voire notre talent, ça va être de susciter l'adhésion. Faire de ce séjour de cohésion un moment où on va réussir à rassembler les jeunes, y compris ceux qui n'avaient pas envie d'être là.
Pour ces 200 adolescents, l'étape de cohésion du SNU est terminée. Il leur reste une mission d'intérêt général à réaliser chez eux, sauf pour Pearl, qui fait partie des 150 volontaires sélectionnés pour défiler le 14 juillet.
Position, en ligne, une belle ligne, en avant.
Cette année, 2380 adolescents âgés de 15 à 16 ans ont participé à ce SNU, ce service national universel en France. L'année prochaine, le gouvernement espère en convaincre 40 000. La Cour de cassation rend cet après-midi sa décision dans l'affaire Vincent Lambert. Elle pourrait s'avérer cruciale pour l'avenir de ce patient tétraplégique en état végétatif depuis 10 ans, car elle devra dire si la Cour d'appel de Paris pouvait ordonner le 20 mai dernier la reprise de l'alimentation et de l'hydratation pour Vincent Lambert, qui l'a ainsi maintenu en vie. Sa famille se déchire autour de cette question. La canicule encore en France métropolitaine, je vous le disais en début de journal, elle s'accentue ce vendredi sous un plein soleil. Le Gard, le Vaucluse, l'Hérault et le nord des Bouches-du-Rhône sont placés en vigilance rouge. 76 autres départements sont en alerte orange canicule, avec ce matin 24 degrés à Bordeaux, 25 à Strasbourg, 27 à Paris, mais déjà 32 degrés à Nantes et à Lyon, 35 ce matin à Montpellier. Il est 6h40 sur France Culture. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Claire Lecoq-Réal.
Jacques, c'est votre dernier journal des idées de la saison avant l'été. Et vous avez choisi ce matin trois grands intellectuels. Ils sont au menu des pages idées de nos quotidiens. Mm-hmm. Un Français, un Américain et un Allemand, Tocqueville, Rawls et Habermas.
Oui, le Figaro annonce le thème des conversations Tocqueville qu'il organise ce week-end avec la Fondation Tocqueville, l'Atlantic Council et la revue The American Interest. Le thème, le futur des nations. Une trentaine d'intellectuels et de décideurs politiques, dont notre confrère Alain Finkielkraut, le spécialiste de Tocqueville, Pierre Manant, ou le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, débattront de cette question à l'heure où elle fait retour dans un monde qui bascule. Faut-il s'en inquiéter ou y reconnaître un réflexe de survie face à la globalisation néolibérale? C'est la question posée par Laure Mandeville qui organise ses rencontres. Si après l'effondrement de l'URSS et de l'utopie marxiste, la nation a réémergé de ses cendres à l'est de l'Europe, où elle avait été recouverte des oripeaux de la solidarité socialiste, cette renaissance a été occultée par le triomphe de la démocratie et du marché, résume Laure Mandeville. Dans l'euphorie de la fin de l'histoire, la globalisation néolibérale et l'ouverture des frontières ont été imposées par l'Occident comme les vecteurs d'une expansion inéluctable de la démocratie libérale qui ne pouvait être qu'un jeu gagnant-gagnant universel. Pour le professeur de théorie politique de l'université de Georgetown, Joshua Mitchell, il existe un nationalisme civique tocquevillien acceptable, une voie moyenne pour sortir d'un universalisme hors sol et de la mêlée des identités. Cette position n'implique pas pour autant un retour aux pratiques du 19e siècle. Si les nations restent un élément central du système international au XXIe siècle. Elles doivent se garder de l'illusion de la toute-puissance et, ajoute Mitchell, ménager un aller-retour entre le niveau national et le niveau global, pas une opposition stérile. Ce sera un processus chaotique, mais, comme le rappelle Tocqueville, le pluralisme est imparfait. La passion de l'égalité dont Tocqueville créditait nos concitoyens est au cœur de l'ouvrage de Catherine Audard, publié chez Grasset sous le titre « La démocratie et la raison ». Actualité de John Rawls. Comme le rappelle Serge Audier dans Le Monde, Catherine Audard est aussi la traductrice de la théorie de la justice, classique de la philosophie morale et politique, connaît une nouvelle jeunesse avec l'explosion vertigineuse des inégalités et l'essor d'un populisme xénophobe et nationaliste. Marqué par la Shoah, puis par la guerre du Vietnam et le mouvement des droits civiques, Rawls a voulu conserver et dépasser en une synthèse novatrice le libéralisme classique classique, fondement de l'état de droit, qui souligne les conditions concrètes de la liberté, justifiant ainsi l'état social. Il ne s'agit donc pas de réduire l'individu à un atome, avide de maximiser son seul intérêt égoïste. En partant de la quête de justice qui anime chacun d'entre nous, Rawls en appelle à notre faculté de dépasser les intérêts privés ou corporatistes, comme être rationnels, moraux et civiques par la délibération publique à propos du cadre institutionnel censé répartir équitablement les charges et les bénéfices de la coopération sociale. On peut rappeler ici sa fameuse théorie du voile d'ignorance, une procédure hypothétique qui dissimulerait à chacun sa position sociale ou condition physique, de manière à garantir que dans le choix des principes, personne ne soit influencé par son avantage ou désavantage naturel ou social. Et dans la mesure où nous ignorons quelle sera notre place dans la société, nous serons spontanément enclins à choisir des principes soucieux des plus défavorisés, puisque nous pourrions en être. Pour le philosophe, les inégalités socio-économiques sont justes si et seulement si elles produisent en compensation des avantages pour chacun, et en particulier pour les membres les plus désavantagés de la société, d'où ces trois principes, une égale liberté pour tous, l'égalité des chances et la redistribution des richesses. Et sur la méritocratie, Rawls formule cette objection: personne ne mérite ses capacités naturelles supérieures ni un point de départ plus favorable dans la société. Si l'égalité ne peut être absolue, sa réalisation maximale est souhaitable parce que la concentration de la propriété du capital et de la richesse menace la démocratie. Dans les pages Idées de Libération, Michael Fössel célèbre les 90 ans de Jürgen Habermas, le philosophe siècle, une occasion pour l'Allemagne de se retourner sur son propre passé à un moment où cette nation doute d'elle-même, trop jeune pour avoir participé aux crimes du Troisième Reich. Habermas s'est employé à penser comment une telle perversion du politique a été possible et les conditions d'une communication rationnelle. Il n'a pas seulement voulu nommer le mal, il a interrogé les promesses non tenues de la modernité, et il demeure, au soir de sa vie, fidèle à la leçon de Kant selon laquelle la critique philosophique a pour vocation d'émanciper les hommes. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Migné, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux, aujourd'hui le G20 au balcon de l'affrontement Chine-États-Unis.
Et oui, au balcon vraiment. C'était le début du G20 il y a moins de 2 heures à Osaka. 2 jours de réunion entre les 20 chefs d'État qui représentent la majorité du PIB mondial. Au programme, bien sûr, les tensions dans le Golfe, le climat, la réforme de l'OMC. Et vous l'avez dit, Jacques, la guerre commerciale États-Unis-Chine avec une rencontre entre Xi Jinping et Trump demain dans la matinée. Alors que va-t-il en advenir? On voit ça avec vous, Philippe Lecor. Bonjour, merci d'être au téléphone.
Bonjour, Xavier Martinet.
Merci, en direct depuis Boston. Vous êtes senior fellow à la Harvard Kennedy School, spécialiste des relations internationales et de l'Asie. Alors cette guerre commerciale Chine-États-Unis, elle pourrait connaître un nouveau développement entre aujourd'hui et demain, puisque la relation s'est étendue depuis mai dernier. Mais depuis hier et avant-hier, apparemment Bloomberg et le South China Morning Post parlent d'une possible trêve dans cette guerre. Est-ce que c'est confirmé aux États-Unis?
C'est-à-dire que la trêve, elle pourrait se faire au niveau de l'imposition des sanctions commerciales, de l'imposition de nouvelles sanctions commerciales à l'endroit de produits chinois côté américain et du coup par rétorsion côté chinois également. Mais en fait, tout cela risque d'être reculé pour mieux sauter dans la mesure où la Chine veut un accord entre égaux. C'est important pour Xi Jinping en tant que leader du régime communiste chinois. Et Donald Trump, de son côté, qui est entré en campagne électorale, veut également des choses symboliques comme une réforme chinoise, une réforme des entreprises chinoises. Il veut qu'on mette fin aux aides étatiques, aux attaques sur la propriété intellectuelle. Donc, si vous voulez, on ne parle pas forcément des mêmes choses. Chacun veut se sortir de cette situation pour le mieux, Mais symboliquement, c'est important de sortir d'Osaka, si j'ose dire, la tête haute.
Et alors, quand bien même le cake de la trêve semble avoir été cuit, c'est ce que disait un des officiels de la Maison Blanche qui était interrogé par l'AFP ou par Reuters, je crois. Vous disiez un accord entre égaux. Qu'est-ce que voudrait la Chine, en fait? C'est la levée des sanctions contre Huawei, principalement, là, qui a tendu justement la relation il y a un mois.
Alors, la Chine voudrait tout simplement un accord. La Chine est d'accord pour acheter davantage de produits américains, si vous voulez. En revanche, comme je le disais, elle ne veut pas changer son système, le rôle des entreprises d'État qui investissent principalement à l'étranger. Et surtout, elle ne veut pas remettre en cause ce qu'on appelle le programme Made in China 2025, donc ce programme de technologie avancée qui permettra à la Chine de devenir une puissance égale sur le plan technologique égale des États-Unis. Et évidemment, c'est ça qui pose problème. Vous avez cité Huawei, il y a aussi ZTE, il y a d'autres entreprises chinoises qui touchent aux sujets les plus sensibles, c'est-à-dire qui permettront à la Chine de gérer beaucoup de choses dans le monde. Et pour l'instant, Huawei s'est vu fermer la porte du marché américain, même si un certain nombre de sociétés américaines continuent à fournir un certain nombre de pièces détachées à Huawei. Mais en principe, à partir du 1er janvier 2020, il sera interdit à ces sociétés américaine de travailler avec Huawei. Donc ça, c'est un problème très important que les Chinois n'arrêtent pas de mettre en avant et ne voudront pas céder, puisque Huawei, ZTE, ces sociétés sont importantes pour l'avenir de la Chine et pour la fierté de la Chine, je dirais.
Bon, ben ça, c'est pour le grand enjeu de demain lors de la rencontre entre Xi et Trump. Alors, pour le moment, pour le sommet, c'est quand même un peu la prise de température, ce sommet du G20, du multilatéralisme. Il y aura un certain nombre de consensus à obtenir ou à arracher. D'abord, la déclaration commune à la fin, des avancées sur la réforme de l'OMC, voire l'annonce d'un accord commercial UE-Mercosur. Est-ce que c'est possible encore dans les conditions actuelles? Ça avait été difficile la dernière fois à Buenos Aires, quand même, en décembre.
Oui, c'est-à-dire que ces rencontres sont de plus en plus des occasions de dialogues bilatéraux entre dirigeants. Je lisais tout à l'heure la liste des dialogues que Donald Trump va avoir avec les leaders étrangers, notamment avec Xi Jinping, mais aussi avec le premier ministre japonais, avec le premier ministre indien, avec Angela Merkel. Et donc, au final, il y a effectivement cette question du communiqué commun sur des sujets multilatéraux qui finalement intéressent assez peu Donald Trump, pour qui la rencontre avec le dirigeant chinois est de loin la plus importante. À la fois sur le plan économique, comme on disait, mais aussi sur le plan stratégique, je dirais.
Au point de venir perturber, voire paralyser, on pourrait dire, le G20, parce qu'il y a eu, par exemple, un certain nombre de pressions américaines sur les alliés qui sont liées de près ou de loin à cette guerre commerciale, notamment des pressions sur les Sud-Coréens, à qui les États-Unis ont demandé, par exemple, des envois de navires de guerre, le bannissement de Huawei, ou de la même manière, des pressions qui ont été faites, des pressions chinoises sur l'ASEAN pour qu'elle se range du côté chinois dans cette bataille.
Oui, chacun défend ses intérêts. Il est clair que la Chine s'est comportée un petit peu comme les États-Unis en baissant les droits d'importation des produits européens, par exemple, ou des produits asiatiques vers le marché chinois. Et donc, on voit une augmentation des exportations chinoises vers l'Union européenne, par exemple, de 14,2% depuis janvier, et alors que vers les États-Unis, il y a eu une baisse de 4,8% des exportations chinoises. Donc, si vous voulez, il y a ces questions commerciales. Et puis, bien sûr, il y a le contexte, je dirais, géopolitique en Asie, avec la péninsule coréenne, avec plus ou moins une humiliation de la Corée du Sud par la Chine. Vous savez que Xi Jinping s'est rendu à Pyongyang il y a peu de temps. C'était une visite quand même assez remarquable, parce que c'est la première fois depuis qu'il est au pouvoir, depuis 7 ans, qu'il se rend à Pyongyang, alors que son homologue Kim Jong-un, lui, est venu 4 fois en Chine. Donc tout ça alors que les États-Unis et la Corée du Nord ont eu 2 rencontres au sommet qui n'ont pas vraiment eu les effets attendus.
Il s'est rendu à Pyongyang le 19 juin, il s'est rendu à Moscou le 5 juin également. À quoi est-ce que ça correspond de la part de Xi Jinping dans ce contexte? C'est une manière de se poser comme intermédiaire, de montrer qu'il pourrait y avoir une sorte de front commun de ce point de vue-là, asiatique?
On est un peu dans la politique spectacle, c'est-à-dire que Xi Jinping a fêté son 66e anniversaire à Moscou et déclare que Vladimir Poutine est son meilleur ami. Qu'il aille voir Kim Jong-un alors que l'économie nord-coréenne n'est pas spécialement attractive pour la Chine, mais c'est vrai que c'est un peu un vassal vis-à-vis de la Chine. Donc montrer cette relation un peu de dépendance de la Corée du Nord vis-à-vis de la Chine, même si ce n'est pas tout à fait le cas, c'est beaucoup plus compliqué bien entendu. Tout ça, ce sont des moyens pour Xi Jinping de faire pression sur Donald Trump, sur les Américains. Mais comme vous le savez, Donald Trump, il est un petit peu, enfin, il est très imprévisible. Il est en campagne électorale depuis quelques semaines, face à une vingtaine de candidats démocrates. Donc pour lui, la Chine, c'est important, l'Asie, c'est important. Il veut montrer que la Corée du Nord, c'est lui qui va régler la situation et qui va conclure un accord avec Xi Jinping, mais rien n'est moins sûr.
Ce qui veut dire qu'il y aurait quand même un intérêt à l'administration Trump et à Trump lui-même en campagne à conclure assez rapidement un accord, même aussi pour des raisons économiques internes, parce qu'il y a les agriculteurs américains qui souffrent de cette bataille, pour ne citer qu'eux.
Oui, il est clair que ces mesures commerciales portent atteinte notamment au secteur agricole américain et à un grand nombre d'entreprises américaines qui travaillent en Chine et aussi, bien sûr, aux produits chinois de l'autre côté. Mais la Chine a déjà diversifié ses relations commerciales avec l'Amérique du Sud, avec l'Europe. Et donc Donald Trump ne peut pas continuer indéfiniment à mener cette guerre commerciale. Il a besoin d'un succès, il a besoin d'annoncer quelque chose. Donc je pense que ce sera le cas. Mais si vous voulez, sur le long terme, républicains et démocrates au Congrès américain sont relativement d'accord sur le fait qu'il y a une menace chinoise, sur le fait qu'il y a plus qu'une concurrence, une rivalité vraiment stratégique de long terme entre les États-Unis et la Chine. Donc ça, c'est un problème que Xi Jinping doit gérer. Et il n'a pas vraiment géré la chose depuis un an et demi, depuis que Donald Trump a déclaré cette guerre commerciale.
Et de ce point de vue-là, ce sera plutôt les prémices d'un affrontement à venir. Alors, il paraît que si Trump peut obtenir quelque chose, ce serait ce qu'on appelle un mini-accord. Ça veut dire quoi? Pas de réforme structurelle, mais quoi dans un mini-accord?
Ben, un mini-accord, ça veut dire que les Chinois augmentent leurs importations de produits américains, donc essayent de résorber en partie le déficit commercial, et également font des efforts en matière de propriété intellectuelle. Mais les deux sujets dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire la réforme des entreprises d'État et une sorte de passage de témoins vers plus d'investissement par les entreprises privées chinoises, et il y en a, les entreprises privées chinoises, mais sous l'empire de Xi Jinping, c'est vrai que les entreprises d'État mènent le jeu. Et puis, la question technologique, c'est-à-dire renoncer à cette domination sur la 5G, sur différents sujets extrêmement sensibles aux yeux des États-Unis, de la Silicon Valley, et même de l'Europe. Tout ça semble inenvisageable. Parce que Xi Jinping, qui est un leader nationaliste, s'appuie un peu sur l'opinion publique, sur la fierté, sur le côté revanchard presque des guerres de l'opium, etc.
Eh bien, rien n'est fait, ce sera à suivre. Merci beaucoup Philippe Lecor, bonne soirée à Boston et bel été à tous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente le festival La Rochelle Cinéma. Le rendez-vous incontournable des amateurs du cinéma avec plus de 200 films du monde entier. Une programmation riche et éclectique avec notamment Dario Argento, Caroline Champetier, Jessica Hausner, Jean-François Laghioni et Elia Souleymane. Festival La Rochelle Cinéma jusqu'au 6 juillet. Un partenariat France Culture.
6h57 sur France Culture, c'est l'heure des matins présentée par Guillaume Herner. Bonjour Guillaume.
Bonjour Xavier Martinet.
Alors quel bilan pour cette année, justement, juste avant l'été?
Eh ben oui, vous savez, c'est peut-être notre dernier été, hein. Je ne sais pas s'il y en aura un autre, puisque cette année, je compte en année scolaire, l'année radio comme celle des écoliers va de septembre à juin. Nous avons eu plusieurs fins du monde, nous avons encore plusieurs fins du monde possible, imminente. J'ai même l'impression que l'information s'est progressivement transformée en prière millénariste, ce qui représente une vraie nouveauté depuis la philosophie de Hegel. Vous savez que pour Hegel, la lecture du journal était la prière de l'homme moderne. Et bien maintenant, les pushs que nous recevons sur nos téléphones portables, ces alertes sont autant de gongs anxiogènes qui viennent annoncer un Armageddon imminent. La religion commune, c'est le millénarisme, le culte de la fin des temps, l'adoration de l'effondrement ultime. C'est ainsi qu'hier, tandis que je tentais à grand-peine une sieste de matinalier pendant cette canicule que les médias décrivent comme écrasante, effrayante, exterminante, j'ai été dérangé par une alerte faite par BFM. Un astéroïde était sur le point d'arriver sur la Terre. Vérification faite grâce aux experts de BFM, ce gros machin ne franchirait pas le périphérique terrestre. Autrement dit, il resterait à quelques millions d'années-lumière de nous. Mais par les temps qui courent, moi je comprends BFM, il ne faut pas mégoter sur une fin du monde possible. Je vous rappelle que cette année, notre monde a déjà été plusieurs fois détruit. Il y a eu l'apocalypse gilet jaune, évidemment, plusieurs apocalypses Poutine, Trump, Xi Jinping, la désormais classique apocalypse djihadiste, l'apocalypse écologique, bien sûr. Et voilà maintenant la fin du monde globale. Alors bien sûr, certains de ces risques sont préoccupants. En premier lieu, le risque écologique, mais ce climat de fin du monde entretenu n'incite en rien à agir, bien au contraire, il pourrait nous condamner au pessimisme. Voilà pourquoi je me permettrai de laisser la conclusion à Shimon Peres, un homme qui s'y connaissait en apocalypse. Il disait « Et que fait-on avec le pessimisme ?»